With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply. No.
Il y a ce côté où tout ce côté inspiration quand on parle des personnes handicapées et surtout celles qui arrivent à se fondre dans une société qui est validiste, où la norme est la personne valide et donc une personne en bonne santé qui travaille, hein, et que quand cette personne handicapée travaille et arrive à se normaliser entre guillemets, bah on va la mettre sur un pédestal, on va dire bah si elle y arrive, pourquoi toi tu n'y arrives pas? Et c'est ce côté qui est très très dangereux et très inquiétant, où on met les personnes handicapées en compétition, et c'est quelque chose qu'il faut combattre également, en fait, qu'on puisse travailler tout court, qu'on puisse travailler un peu ou qu'on puisse pas travailler, n'a aucune incidence sur le respect qu'on doit à cette personne et sur le fait qu'elle ait une place dans cette société.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Alors, je suis Marina Carlos, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et j'ai travaillé dans le social media, et maintenant je fais une petite pause où je me concentre sur des projets plus personnels.
D'accord. Et Marina, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Alors, j'aime beaucoup le mot stylé et je pense que c'est un mot qui me représente bien. Donc, je vais dire que je vois une meuf stylée. merci beaucoup. Stylée, souriante. Et quand je vais au miroir, je suis plutôt fière de moi.
Est-ce que tu veux bien me parler de ton enfance ?
Alors, mon enfance, donc je suis née à Paris. Mes parents sont d'origine portugaise. Ils ont émigré en France il y a plusieurs décennies maintenant. Moi, je suis née à Paris avec ma sœur et j'ai vécu ici depuis que je suis née. Donc mon enfance était très heureuse. J'ai vraiment une famille qui est top. Je suis vraiment vraiment très très chanceuse. Donc la plupart de ma famille est au Portugal. Aujourd'hui, enfin dans mon enfance pour le coup, j'étais là avec mes parents, ma sœur, une de mes tantes et mes grands-parents paternels. Et chaque été, je retournais au Portugal durant les deux mois de grandes vacances. J'ai vraiment une enfance où très paisible, très agréable et plein d'amour.
Est-ce que tu as évoqué le fait que tes parents donc, soient portugais, est-ce que tu penses qu'ils ont vécu une certaine discrimination du fait de venir du Portugal ?
Alors, je ne sais pas si discrimination est le bon mot. J'imagine qu'ils ont eu beaucoup de... qu'ils ont fait... Enfin, c'est pas j'imagine, c'est je sais qu'ils ont fait énormément de sacrifices d'être dans la famille, etc. Mais il y a le côté opportunité d'avoir une vie meilleure qu'ils ont pris, et je les en remercie. Après, je vois bien... j'étais témoin de certaines actions qui clairement étaient remplies de préjugés, d'ignorance et d'arrogance de la part de certaines personnes envers mes parents. Par exemple, ma mère qui est gardienne, et donc j'ai vécu beaucoup de fois de gens qui pensent qu'elle est là en fait juste pour servir des personnes 24 heures sur 24, et c'est des choses qui évidemment sont extrêmement choquantes. Donc je pense que ici et là ils ont vécu et nous on a aussi été témoins avec ma sœur de préjugés et de moqueries par rapport à leurs accents, par rapport à leur métier. Et je pense que c'est quelque chose que vivent la plupart des enfants d'immigrés portugais, mais également aussi espagnols. Et je pense que c'est peut-être différent d'une discrimination envers des enfants d'immigrés d'Afrique du Nord, ou d'Afrique tout court, ou de pays maghrébins.
Et tu parlais de moqueries, comment ça se passait à l'école globalement ?
Alors moi j'ai eu des moqueries par rapport au métier des parents, Ça, je l'ai vécu en primaire, au collège, moi au lycée. Et c'est aussi, j'imagine, aussi dû au fait que j'étais dans un quartier dans le Marais où le niveau de vie est quand même assez... où en fait, au collège, j'étais avec des gens qui étaient très, assez aisés, voire très aisés. Et il y avait ce côté très arrogant également et très prétentieux. Et donc, ces métiers qui sont vus comme des métiers sous... des sous-métiers, quoi. Et donc, de là, c'était les moqueries.
Et en parlant de métier, quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant ?
Alors, je crois que je suis passée par plusieurs stades, plusieurs choses différentes. Je crois que je voulais être infirmière à un moment. J'ai aussi voulu être caissière à un moment. Je voulais être prof à un moment. Je voulais être danseuse aussi. J'ai fait de la danse moderne quand j'étais petite. Mais après, j'ai pas l'impression d'avoir eu un objectif une fois où j'étais en mode il faut vraiment que je fasse ça ou ça. Enfin, je changeais, j'ai beaucoup de phases. Et, et en fait, la vie a fait que mes objectifs étaient aussi différents ici et là.
Et comment tu t'es construite en tant que jeune fille et jeune femme, en fait, tout le long de ta vie, en fait?
Alors, en fait, déjà, j'ai eu mon accident de voiture en 2004, donc quand j'avais 16 ans. Donc, en fait, la transition a dû être de jeune fille à jeune femme, et de jeune fille à jeune fille handicapée, et de jeune fille handicapée à jeune femme handicapée. Donc, il y a eu plein de changements drastiques, en fait, dans ma vie de jeune fille. Par rapport donc au simple fait d'être une fille à une femme et aussi d'être une fille handicapée à une femme handicapée. Après, je pense que ma transition, je ne saurais pas trop comment l'expliquer tellement ça a été une tempête de changements dans ma vie, dans celle de ma famille, etc. Mais j'ai vraiment la chance d'avoir une famille qui est qui me soutient énormément et qui dans ces périodes-là a été là pour moi. Tout le temps. Et c'est ce qui m'a permis de me construire et me construire dans un espace où je me sentais, où je pouvais me permettre de prendre le temps de me construire et de prendre le temps de réaliser ce qui venait de se passer, de prendre en compte aussi ce que ma famille est en train de traverser et qu'on puisse faire ça tous ensemble. Également aussi en même espace parce que j'étais encore jeune donc j'habitais encore chez mes parents tout ce temps-là et d'avoir vraiment le temps et la patience de mes parents pour qu'on puisse faire ça calmement et ne pas être brusqué en fait avec tous ces changements qui avaient lieu pour moi en tant que jeune fille mais notamment en tant que jeune fille handicapée.
Du coup t'as eu ton accident à 16 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui change ? C'est une question très naïve en soi, mais qu'est-ce qui change à partir de là ?
Alors tout. tout, et en fait ce qui est assez, ironique, c'est que mon accident a eu lieu au Portugal, et en fait mes parents viennent d'un petit village, et en fait quand j'y retourne, tout a changé et rien n'a changé. Quand je dis que rien n'a changé, c'est que j'ai l'impression que rien n'a changé par rapport à ma famille, à qui je suis, à qui on est. Mais tout a changé dans le sens où tout doit être aménagé, tout doit être réfléchi, tout doit être anticipé. Et c'est ça en fait qu'il faut travailler, qu'il faut réaliser, qu'il faut construire. Et c'est tous ces petits aménagements. Et c'est aussi le fait de réaliser que quand en personne handicapée, je ne suis plus du tout, j'ai pas plus du tout la même place dans cette société qu'avant. Et c'est surtout ça qui est dur. Et qui fait une grosse claque en pleine face. Et évidemment, il y a tout le côté handicap et ce que ça représente, et les conséquences sur moi, sur ma santé, qui évoluent aussi au fur et à mesure de ma vie. Et avoir ça qui retentit sur moi, mais qui retentit aussi sur ma famille. Parce que j'imagine que personne ne veut voir ses parents tristes, veut voir ses parents souffrir. Et ça fait un peu un boomerang où je sais qu'ils n'aiment pas non plus me voir souffrir. Donc c'est aussi ça qui est assez long. Et qui est dur. En fait, j'ai des parents qui me soutiennent beaucoup, donc je sais qu'ils m'aident énormément, et parfois je me sens mal, je culpabilise énormément, et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve avec beaucoup de personnes handicapées, c'est ce côté où on culpabilise beaucoup de devoir leur demander tellement, et savoir qu'ils ne devraient pas. Mais je sais également que tout le monde n'a pas cette chance-là, d'avoir une famille qui peut se permettre d'aider la personne en tout. Donc je pense que c'est aussi sur ça que nous, on se bat en tant que militants. C'est que moi, je sais très bien que j'ai énormément de chance d'avoir une famille, mais je sais aussi que les gens n'ont pas forcément autant de chance. Et surtout, je suis aussi consciente que ma famille ne devrait pas avoir autant de charges sur les épaules, en fait, pour m'aider. Donc je sais évidemment qu'ils le font parce que voilà, je suis leur fille, etc. Mais ils ne devraient pas avoir cette charge-là. Et c'est surtout de ce côté-là, en fait, que la culpabilité, que c'est compliqué, c'est je sais qu'ils le font avec amour, etc. Mais je sais très bien qu'ils ne devraient pas avoir à le faire. Et je leur ai déjà demandé beaucoup d'aide et je leur en demande encore. Et j'aimerais bien les soulager un peu quand même. Ils commencent à devenir un petit peu âgés et j'ai envie qu'ils stressent moins. Et moi, je suis déjà un peu stressée. Et je sais que ma mère surtout aussi. Et j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus relaxe, quoi.
Tu disais que ta place avait changé dans la société, mais en fait, ta place sociale, ta place physique aussi. Mm-mm. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer en quoi consiste ton handicap ? Parce que, en fait, c'est un podcast, donc oui. Personne ne sait.
Alors, moi, j'ai un handicap moteur, donc je suis paraplégique, donc c'est-à-dire que je n'ai plus la fonction motrice, donc mes jambes ne bougent plus, et de fait, je me déplace constamment en fauteuil roulant. Donc, en gros, mon fauteuil roulant est devenu mes jambes, et de fait, je me déplace de manière plus... Enfin, c'est plus difficile pour moi de me déplacer dans, chez moi ou dans la rue, dans l'espace public. Et quand je parle du fait que ma place a changé, bah, c'est que par exemple, je n'ai pas autant droit à l'autonomie. Je n'ai pas autant droit à la mobilité. Je ne peux pas prendre les transports en commun, notamment le métro qui m'est complètement interdit, limite. Dans l'espace public, c'est très compliqué en fait, d'être à l'aise pour se déplacer. Il y a énormément d'obstacles. Les trottoirs ne sont pas forcément aménagés pour que les personnes puissent, en fauteuil, puissent de manière aisée passer un trottoir à un autre, passer de la route à un trottoir. Et en fait, le simple fait de se mouvoir dans l'espace public et dans les voies, voilà, dans les trottoirs et tout, devient vraiment très très compliqué et dangereux et risqué. Et une des conséquences de ça, c'est que quand le simple fait de sortir est compliqué, on peut s'isoler de plus en plus.
Est-ce que tu penses que c'est plus compliqué de se sentir devenir adulte dans ce cas de figure quand on est moins autonome ? Ça peut sembler un peu caricatural comme question, mais...
Non, enfin, c'est pas tellement caricatural. Je pense que la difficulté, c'est que quand on a énormément besoin, quand on est dépendant et qu'on a besoin d'aide, c'est vrai que quand on pense à l'âge adulte, en fait, on pense à l'autonomie et faire les choses seul. Et en fait, quand on est handicapé moteur ou qu'on a d'autres handicaps, mais je pense évidemment sur ce que je connais, c'est vrai que parfois, je me demandais à mes parents ou à d'autres personnes de m'aider à aller en soirée ou à aller, par exemple, à un événement. Et il y a ce côté où, en fait, tes parents t'accompagnent quelque part, etc., il y a bien sûr une image où c'est très enfantin, en fait, tes parents t'accompagnent. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me frustre un peu, quoi. Parce que j'ai juste envie de vivre ma vie sans pour autant que les parents soient toujours là. Et ça revient aussi au fait de devoir toujours demander d'aide à mes parents. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où l'adulte, c'est le mot qui vient avec adulte, c'est indépendance. Et qu'en tant que personne handicapée, on a une dépendance qui n'est pas forcément quelque chose à voir comme quelque chose de négatif. Mais c'est vrai que suivant les espaces, suivant ce que tu fais, parfois, t'as juste envie de faire ton truc tout seul et vivre sa vie tout seul, quoi.
Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de construction et peut-être de déconstruction aussi par rapport à toi en tant que jeune femme et en tant que jeune femme handicapée ?
Alors, moi, au tout départ, donc quand j'ai mon accident, j'ai passé plusieurs mois donc hospitalisée à temps complet, on va dire ça comme ça. Puis j'ai été transférée dans une clinique plus proche de chez moi où j'y allais que en hôpital de jour. Donc en fait, j'y allais le matin et je revenais le soir. Et en fait, je pense que pour pas que ça passe trop long, pendant, on va dire, les 10-15 premières années où j'ai vécu en tant qu'adolescente, puis jeune femme handicapée, en fait, mon objectif, c'était clairement de me normaliser le plus possible. Donc de vivre ma vie le plus intensément possible, quitte à aller au-delà de mes limites. Mes limites que je ne connaissais pas encore, en fait. Je voulais vraiment étudier, travailler, vivre ma vie. Et petit à petit, en fait, mon corps m'a dit genre stop. Donc déjà après j'ai fait un BTS, après ça mon corps m'a commencé à me dire stop. J'ai voulu continuer parce que j'entrais en vie active, donc j'avais envie de... je faisais mon bachelor puis mon master, et donc avec bachelor et master on faisait des stages. Et donc je voulais pas non plus mettre un halt à ça, je voulais juste continuer. Après mon premier travail en agence, quelques mois après je suis de santé. J'étais hospitalisée, puis j'ai recommencé à travailler à temps plein et ça a donné la même chose. Donc là j'avais déjà, on va dire, 26-27 ans il me semble, et là j'ai dit non mais en fait, il faut que tu te calmes, ton corps clairement ne peut plus fonctionner comme si tu vivais une vie entre guillemets normale, arrête de vouloir faire plus que tu ne veux. Et en fait c'est là où j'ai commencé à me dire pourquoi je veux absolument faire autant que les autres, alors que mon corps ne me permet pas de faire autant que les autres. Et surtout, j'étais en mode, faut que t'arrêtes en fait. faut que t'arrêtes de vouloir faire autant. Faut que t'arrêtes de vouloir te normaliser, vouloir faire comme les autres si tu ne peux pas. Et ça ne veut pas dire que tu es moins, en fait, que tu es moins valide, je sais pas quel est le mot. C'est valuable en anglais, je sais plus... que tu mérites moins, que tu dois moins être respecté parce que tu fais moins que les autres, quoi. Ton corps est ce qu'il est maintenant, tu l'as déjà, enfin, je lui ai déjà fait endurer assez de choses comme ça, et ce que j'endure physiquement, évidemment, ça fait un ricochet et c'est mental, quoi. Donc, et j'avais juste envie d'arrêter, quoi. Je me disais, c'est bon, ça fait 5-6 ans que tu bosses là-dedans, t'es étudié là-dedans, en tout, ça doit faire, voilà, une dizaine d'années, t'as donné. Tu as vu les résultats sont pas bons pour ton corps et pour ton mental, donc stop quoi. Et en fait, au même moment, donc j'ai eu un procès qui a duré extrêmement longtemps, donc j'ai eu des dommages et intérêts, et j'ai eu la chance enfin d'avoir des ressources en fait qui me permettent de faire une pause, qui me permettent de dire prends du temps pour toi, tu n'es pas dans le contexte où tu dois absolument travailler, où tu dois absolument survivre et vivre, donc laisse-toi un peu de temps. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai eu plusieurs chirurgies, donc pendant un an et demi, j'ai eu des opérations qui se sont suivies, et je pouvais absolument pas m'engager dans un truc professionnel, donc je me suis dit, là c'est le moment, là tu peux prendre du temps, en plus j'arrive à mes 30 ans, donc c'est aussi toute une vision, plein de questionnements où tu te dis, bon bah maintenant j'ai cet âge-là, où je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce que j'ai fait ça m'intéresse toujours, est-ce que j'ai envie de faire d'autres choses, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble plus. Et de là je me suis mise sur Twitter, j'ai commencé à parler de moi, j'ai commencé à parler de mon expérience en tant que personne handicapée, j'ai commencé à suivre aussi d'autres militants, anglophone et francophone, j'ai commencé à lire beaucoup de choses, et des choses qui me ressemblaient, où je me sentais, qui me disaient, ah ouais, mais en fait, t'es pas la seule à penser ça, ah mais effectivement, si tu, voilà, ce côté normalisé, c'est normal que tu ressentes ça, et c'est normal que t'as envie aussi de t'arrêter, et que tu te, que t'es juste plus envie de, comment dire, de te tuer au travail, juste parce que il faut se tuer au travail, et parce qu'on est dans un système qui voit tellement la productivité, la rentabilité, et mettre ton corps au service vraiment, et être complètement exploité en fait. Et donc moi ça m'a permis vraiment de m'ouvrir de ce côté-là, de lire plein de choses, plein de contenus, et de me déconstruire petit à petit. Donc je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça fait, que ça arrive comme ça, et que tout devient clair. Mais c'est quelque chose qui m'a été extrêmement important, et qui, quand je vois aujourd'hui, donc ça fait, on va dire, 2-3 ans que je suis dedans, le travail sur moi-même que j'ai fait est considérable. Le fait qu'aujourd'hui je puisse me dire « fais-toi une pause, t'as le droit d'avoir tes limites », c'est un travail considérable. Clairement, il y a 5 ans, je ne me serais jamais dit ça, et j'aurais limite pris ça peut-être comme une faiblesse, de ne pas vouloir faire autant. Et je me rends compte, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai dit au tout début que j'étais fière de moi, c'est que bah, je sais en fait ce que je vaux et je sais que ma productivité et le fait que parfois je puisse dire stop n'a aucune incidence sur qui je suis en fait, tout simplement.
Est-ce que dans ton parcours de santé, il y avait une aide psychologique qui accompagnait tous ces bouleversements ?
Alors oui, j'avais des psychologues qui m'étaient octroyés, en tout cas qu'on me proposait des séances vraiment psychologiques. Après, à cette époque-là, en fait, je pense, donc j'ai essayé, hein, j'ai eu quelques séances et tout, mais en fait, j'avais juste envie d'avancer. J'avais pas envie de parler. Donc peut-être que c'était aussi l'âge de 16 ans où t'as juste envie de saisir la vie et d'avancer, je ne sais pas, mais un côté très warrior où t'as juste envie d'avancer et, coûte que coûte, et t'as pas forcément envie de parler de tout ça. Et donc je crois qu'en tout j'ai dû voir 2 ou 3 psychologues en hôpital et en clinique, mais j'ai jamais, poursuivi trop ce chemin-là en fait. À cette époque-là, je ne voyais pas en parler. C'était tellement frais, parce que ça venait de se passer, que je pense que je réalisais absolument pas ce que ça voulait dire, que je réalisais absolument pas ce que ça allait vouloir dire plus tard dans ma vie. Et là, enfin, à ce moment-là, je voulais juste faire ma kiné, avancer et reprendre ma vie comme je l'avais laissée en fait. Donc évidemment, ça a l'air très simple dit comme ça, et c'était pas du tout le cas, mais quand on a 16 ans, c'était, voilà, je pense que c'est quelque chose où c'était tellement quelque chose de complètement drastique, qui avait complètement chamboulé ma vie et celle de ma famille sans dessus dessous, que j'avais juste pas envie de me mettre là-dedans. Je pense que j'avais juste pas envie d'en parler. Et depuis, je continue un peu dans ce truc où, en fait, limite, mes amis, ma famille, ce que je trouve aussi sur les réseaux sociaux, les nouveaux amis que je me suis fait, et des amis évidemment concernés, handicapés, et tout cet espace, en fait, pour moi, me semble déjà extrêmement... m'aide beaucoup. Donc, aujourd'hui, je ressens pas le besoin d'aller voir une personne tierce, en fait, mais je comprends complètement que des personnes en aient besoin et que ça l'aide complètement. Mais j'ai l'impression, moi, d'avoir déjà le soutien et l'écoute dont j'ai besoin quand j'ai envie de parler, quand j'ai envie de me soulager, de dire ce que de m'exprimer. Et donc, ce côté, voilà, aide psychique, mentale, par un professionnel, me semble pas, dans mon cas, nécessaire pour l'instant.
Est-ce que pour toi, ça te semblait nécessaire, à cette époque-là, quand tu travaillais, de devoir travailler pour ne pas être dans le cliché de la personne assistée, de la personne handicapée assistée, etc.
Mm-mm. Oui, je pense que sûrement un côté inconscient, mais également un côté conscient, était vraiment là en mode « je suis comme les autres ». Et je suis complètement d'accord sur le fait que cette injonction, en fait... En fait, le truc, c'est que je pense que quand on parle des personnes handicapées, il y a ce côté très assisté, donc comme tu disais, et très, comment dire, où la personne, en fait, est tellement misérable qu'elle n'a envie de rien faire, et que donc elle reste chez elle et elle fait rien, sans qu'on voit que le fait qu'elle soit complètement isolée, qu'elle ne fasse rien, c'est aussi parce qu'elle n'a pas les aménagements pour qu'elle puisse faire quelque chose. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, ce qu'on voit dans ce système, en fait, c'est que, par exemple, on recule sur nos droits de personnes handicapées, mais à côté, on fait énormément pour que les personnes handicapées travaillent. Donc, il y a vraiment ce facteur-là qui est mis en avant et qui est un argument de socialisation, ou genre, si vous travaillez, vous allez être dans une entreprise, donc faire partie d'une équipe, etc. Mais à côté, on ne donne pas les aides nécessaires pour que les personnes puissent aller travailler. Et il y a ce côté, évidemment, où une personne handicapée ne peut pas forcément travailler autant que les autres. Et il y a aussi le cas où les personnes handicapées ne peuvent pas travailler tout court, en fait. Et le fait qu'aujourd'hui, quand on parle des personnes handicapées qui travaillent ou qui ont... qui ont un job, sont sans cesse mis sur un piédestal, ça met un peu une compétition entre les personnes handicapées qui peuvent travailler, parce que bah voilà, elles ont des diagnostics ou des handicaps qui leur permettent de travailler, que ce soit à temps plein, à mi-temps, ou voilà, avec un emploi du temps aménagé, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler, et ça ne veut pas autant dire qu'elles ne sont plus... qu'elles ne méritent pas d'avoir une vie digne, d'avoir, de pouvoir profiter de leur vie, de pouvoir exister, et qu'elles puissent pas faire des choses à côté, parce qu'elles ne peuvent pas travailler tout court et avoir un emploi. Donc il y a ce côté où tout ce côté inspiration, quand on parle des personnes handicapées, et surtout celles qui arrivent à se fondre dans une société qui est validiste, où la norme est la personne valide, et donc une personne en bonne santé, qui travaille... Hein, et que quand cette personne handicapée travaille et arrive à se normaliser, entre guillemets, bah on va la mettre sur un piédestal, on va dire bah si elle y arrive, pourquoi toi tu n'y arrives pas. Et c'est ce côté qui est très très dangereux et très inquiétant, où on met les personnes handicapées en compétition, et c'est quelque chose qu'il faut combattre également, en fait, qu'on puisse travailler tout court, qu'on puisse travailler un peu ou qu'on puisse pas travailler, n'a aucune incidence sur le respect qu'on doit à cette personne et sur le fait qu'elle ait une place dans cette société.
Great. Je pense que ce serait intéressant qu'on fasse un petit point de vocabulaire pour que... Est-ce que tu veux nous en définir ce que ça veut dire validiste, le validisme ? Est-ce que c'est qu'une personne valide ? Et comment parler des personnes qui ne seraient pas valides ? Ou est-ce que c'est un gros blasphème de dire ça ?
Alors, donc le validisme, pour moi, c'est vraiment l'oppression en tant que telle des personnes handicapées. Donc ça peut aller d'un regard mal placé à la discrimination pure et dure, où les personnes handicapées ne peuvent pas accéder à un service, à un logement, ou à un lieu, tout simplement. Donc c'est très, très global, ça prend beaucoup de facteurs, etc. Et quand en fait on parle de société validiste ou de personne validiste, c'est vraiment cette norme où la personne handicapée, de par son handicap, est inférieure, en fait, est vue comme inférieure à la personne valide. Et donc de fait, elle va être marginalisée, elle va être exclue, et c'est perçu comme normal, en fait, parce que la personne handicapée n'a pas la même valeur, surtout dans une société capitaliste, et de fait n'a pas à avoir les mêmes droits que les personnes valides.
Et il y a aussi, je fais l'analogie avec le racisme ordinaire et le validisme ordinaire, peut-être, ou angélique, je sais pas comment le qualifier. Comment en fait faire la différence entre ce validisme qui est super agressif et le validisme, on va dire, plus doux.
Alors souvent, le mot qui revient, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que des personnes qui disent des choses validistes vont le faire consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais si elles vont dire que je suis validiste et qu'on va leur dire, elles vont dire « Non, mais je ne le disais pas comme ça, c'était vraiment pour ton bien. » Donc par exemple... quand on dit, moi j'ai déjà eu ça quand j'étais au taf ou autre part, mais quand on me dit, ouah, tu travailles, t'es trop inspirante, genre tu viens le matin, t'es souriante. Et en fait, moi je suis en mode, pourquoi je rirais pas déjà? Et surtout, genre, je me lève le matin comme toi, en fait. Donc, je vois très bien de quoi elle parle, je vois très bien que quand elle dit que j'arrive le matin souriante, c'est que, contrairement à sa perception, le matin, j'ai pas envie de me tirer une balle parce que je suis handicapée et que j'ai juste envie de continuer à vivre ma vie. Et il y a ce côté où, dans sa tête, c'est un compliment qu'elle me fait. Parce que pour elle, à ma place, elle ne pourrait pas se lever le matin, sourire et aller travailler. Donc, ce compliment qui en soi n'en est pas un, parce que ça me met dans une position où t'es en train de me dire que ma vie, elle mérite pas d'être vécue, en fait, et que je devrais être en train de pleurer dans mon lit le matin. C'est perçu comme... moi, je le perçois comme une attaque, en fait, parce que je suis en mode... comment tu me vois, en fait? Clairement, on n'est pas sur un pied d'égalité. Et pour toi, tu me vois comme une inspiration, et pour moi, je prends ça comme limite du paternalisme. où c'est enfin vraiment on me caresse en mode c'est tellement bien ce que tu fais, moi je pourrais pas. Et en fait c'est ce côté-là bienveillant où les gens pensent vraiment qu'ils sont en train de me complimenter ou de complimenter personne handicapée, parce que c'est quelque chose qu'évidemment la majorité d'entre nous vivent et en sont témoins et en sont victimes d'ailleurs, que toute chose que l'on prend mal, c'est parti d'un faux sentiment. Et donc quand on le prend mal, on ne devrait pas le prendre mal. Et en fait, parfois ça ne me dérange pas de répondre et de leur dire voilà ce qui ne va pas dans ce que tu viens de me dire. Et parfois je suis fatiguée, j'ai pas envie de me lancer dans une conversation, j'ai pas envie d'avoir en plus le « non mais pas du tout, oh non ça me fait vraiment la peine ce que tu me dis, je me sens… » Enfin, ce que en tant que personne marginalisée, nous vivons constamment en fait. Et le validisme ordinaire, bah, c'est ça en fait, c'est des petites remarques qui se veulent pas insultantes mais qui le sont. Et c'est tout un système de valeurs, de perceptions, de préjugés qu'il faut abattre. Et ça va prendre du temps, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement ancré et qui de toute façon continue d'être propagé. Et on essaye tant bien que mal de mettre en place un nouveau discours, notamment en France, parce que c'est vraiment à tâtons. Et on espère petit à petit que ce discours sera comment dire, propagé et sera aussi pris en compte par les personnes qui ont le pouvoir de renverser ce discours paternaliste et de faire place à un discours beaucoup plus ouvert et beaucoup plus respectueux envers les personnes handicapées. Donc, en fait, moi, le terme personne handicapée me convient très bien. Je pense que c'est quelque chose... Enfin, il faut vraiment qu'on arrête d'avoir peur de ce mot handicap et personne handicapée. Donc, en fait, le côté invalidisé, c'est un peu comme si on disait non valide. Et en fait, ça remet en place cette idée de norme. Donc, en fait, si tu n'es pas valide, t'es non valide. Et en fait, c'est ce valide-là qui est important. Et en tant que... Et donc ça met un côté négatif en fait, et ça reprend cette idée qu'il y a le valide qui est l'alpha, et tout ce qui est autour n'est pas aussi, ne mérite pas autant de respect et n'est pas la norme en fait, donc de fait marginalisé. Alors que quand on parle juste de personnes handicapées, en fait on décrit juste une réalité, c'est une personne qui a un handicap, ça va vraiment pas plus loin que ça, hein. Et comme je disais, c'est un mot qui doit être arrêté d'être perçu comme négatif. Et je dis ça en tant que personne qui, quand elle est devenue handicapée, n'aimait pas ce mot non plus. C'est aussi un travail sur moi-même que j'ai dû faire, tellement on est ancré par toute cette négativité autour du mot handicap et autour des personnes handicapées. Et c'est un mot aujourd'hui que je n'ai aucun souci à dire, et parce qu'il me qualifie en tant juste que personne qui a un handicap. Mais oui. Parce qu'il y a une question qui revient souvent, c'est, je ne sais pas, dire, je sais pas comment leur parler, comme s'il y avait un espèce de guide en fait de parler aux personnes handicapées, comme s'il y avait un langage spécial. Alors que quand les gens me posent cette question ou que j'entends cette question posée quelque part, je me dis, mais est-ce que vous vous rendez compte, vous parlez quand même juste à une personne en fait avant de parler à une personne handicapée. Et il y a tellement de curiosité qui est parfois la curiosité clairement malsaine. Que les gens pensent vraiment qu'on est juste un livre qui souffre comme ça, qu'on est à disposition et qu'on est là pour répondre à toutes les questions. Alors que même que ce soit une personne handicapée ou non, enfin je sais que qu'on rencontre quelqu'un et qu'on a envie de bâtir une relation amicale, pro, amoureuse, bah, les gens prennent du temps pour se connaître. Donc ça me paraît toujours étrange que dès que quelqu'un me voit ou voit une personne handicapée, il ait envie de lui poser 40 000 questions sur son handicap, comme si elle était à disposition et comme si elle n'avait pas de soucis pour parler de choses qui peuvent être traumatisantes. Évidemment que les personnes handicapées deviennent handicapées ou sont handicapées par différentes choses, quoi. Et ce besoin de tout savoir dès maintenant et de pas... Et souvent, les personnes d'ailleurs qui vous poseront les questions les plus intimes sont celles qui ne vous parleront pas deux semaines après. Donc voilà. Et au contraire, j'ai aussi des amis très proches que je connais depuis plusieurs années. Et je me suis... Donc une notamment. Et en fait, on s'est connus trois ans avant de partir ensemble pendant un week-end à l'étranger. Et c'est durant ce week-end-là que je lui ai, en fait, que je lui ai annoncé que j'avais eu l'accident. Et dans ma tête, j'avais déjà eu depuis longtemps, mais elle m'a dit, enfin j'étais en mode, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé et tout, et j'étais un peu étonnée parce que c'est vrai que j'ai tellement eu l'habitude de dire ce qui m'est arrivé que parfois, limite, c'est moi qui mettais en avant pour pas qu'on pose la question et que ça soit débarrassé. Et maintenant, je fais plus attention à ça parce que je me suis rendu bien compte que j'ai pas besoin de non plus me dévoiler comme ça. Et en fait, elle m'a dit, bah, en soi, tant que tu m'en parles pas, c'est pas quelque chose qui avait une incidence sur comment je te voyais sur cette relation, donc je me suis jamais obligée ou forcée à te poser la question. C'est à toi de voir quand tu m'en parlais. Et ça va. Et juste ça, je me suis dit, ah ouais, effectivement, j'ai pas besoin de le mettre en avant si j'ai pas envie. Et la personne, si elle entend soit peu consciente et respectueuse, elle va pas non plus chercher à savoir si en soi elle me. Ça n'a aucune incidence sur ce que ça pourrait être, quoi. De toute façon, c'est quand on parle de ces choses-là que les gens se rendent compte. Je veux dire, moi, je suis pas parfaite, je sais pas tout sur tout, et je peux pas m'attendre à ce que les personnes sachent tout sur tout aussi, en plus. Et en fait, on a tellement, comment dire, cette curiosité, c'est aussi un système où on est, où genre on doit tout savoir sur tout le temps, et que ce soit les trucs les plus intimes, les plus voyeuristes, et en fait, parfois, il faut juste avoir un minimum de décence, de respect, et se dire, non mais là ça va trop loin, c'est bon, parler, elle m'en parle, et je sais pas, j'ai pas envie de mettre des codes pour mettre des codes, parfois ça se fait différemment, mais c'est vrai que de toute façon, pour chaque interaction et chaque relation, le minimum, c'est le respect de l'autre personne, quoi.
Du point de vue féministe, est-ce que pour toi, il y a une différence fondamentale entre le fait d'être une femme handicapée et le fait d'être un homme handicapé?
Oui, complètement. Je pense que le simple fait d'être une femme a une incidence. D'être une femme handicapée aussi, déjà parce que souvent les femmes handicapées ne sont pas vues déjà comme femmes, donc reprendre cette position là de femme qui a un handicap, c'est déjà un combat en soi. On nous voit comme des personnes qui ne sont pas femmes, qui ne sont pas féminines, qui ne sont pas sexualisées. On nous voit vraiment comme des objets, en fait, tout simplement, et des objets misérables aussi. On nous voit souvent avec de la pitié, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très difficile à gérer en tant que personne, en tant que femme, de pas être vue en fait comme une vraie femme. Et bien sûr, tout ce qui vient avec les violences, la dépendance qui peut être d'autant plus importante en tant que femme handicapée, le fait d'être dans un espace public en tant que femme, en tant que femme handicapée, nous fait qu'on est d'autant plus vulnérable, et que rien n'est fait pour qu'on soit soutenu, aidé, et donc en tant que femme handicapée, les femmes handicapées sont beaucoup plus sujettes aux violences sexuelles que les femmes valides.
Dans quelle mesure est-ce que ça peut avoir un impact ou non dans ta vie sentimentale?
Alors déjà, je pense que le fait, alors en tant que, là je parle en tant vraiment que de personne à handicap moteur, tous les lieux de sociabilisation, les cafés, les bars, les clubs, ça c'est pas accessible. Donc il y a déjà un frein au simple fait de socialiser, en fait, de se faire des potes, de se faire, de draguer, de flirter. Tous ces lieux-là ne sont pas aménagés pour que les personnes handicapées puissent y accéder et puissent aussi y être à l'aise dedans, en fait. Parce qu'il y a le côté où passer une rampe, c'est cool, mais si dedans je peux pas me bouger, il faut juste que je danse un coin, tout de suite, c'est pas si cool. Donc déjà, de un, il y a ça, il y a ce frein au simple fait de cohabiter, en fait, avec d'autres personnes, et donc de construire des relations, etc. Donc ça, c'est le premier frein. Ensuite, après, il y a toute, comme je disais, toute cette image de la femme handicapée qui, donc, doit être évidemment aidée, va peut-être devoir être trop aidée, où il y a trop de, trop, entre guillemets, d'engagement, qu'il y a trop de dépendance, en fait. Et la dépendance est encore vue comme quelque chose d'extrêmement négatif, en fait, même si dans toutes les relations, il y a une sorte de dépendance, en fait. C'est comme ça qu'elles se forment, c'est comme ça qu'elles sont construites, en fait. C'est du gagnant-gagnant, il y a des choses des deux côtés. Et en fait, il y a ce côté que les femmes handicapées ne sont pas désirables, que nos corps ne sont pas désirables, Et il y a aussi le pendant négatif où on est limite vu comme des proies plus faciles en fait, de par notre vulnérabilité physique ou mentale. Tout ça en fait est très confus, très flou.
T'as parlé aussi de l'image, du décor désirable. Est-ce que tu, toi personnellement, ça résonne en toi le mouvement body positive?
Alors, la naissance de ce mouvement, je trouve top. Je pense que ce côté où chaque corps a à être respecté est très très bien. Je pense que l'évolution de ce mouvement qui aujourd'hui, j'ai l'impression que ça prône énormément la beauté, je pense que ça peut être un peu risqué. Et je suis moins fan de faire quoi en avance et que ça perde du sens des produits du mouvement à l'origine en fait. Et souvent quand on parle de beauté, on a l'impression que c'est le seul facteur qui est valable. Et quand on parle souvent des personnes handicapées, quand on parle de corps, etc., souvent on parle de cicatrices. Et en fait, j'ai l'impression, et j'espère que je vais réussir à bien exprimer mon point de vue, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut absolument se trouver beau tout le temps. Et que tout son corps doit être beau. Que toutes les cicatrices doivent être belles. Et si on a un tant soit peu pas cette vision, c'est... Non mais attends, cette cicatrice, elle est magnifique, ça veut dire que t'es une warrior, que t'as vécu plein de trucs et que t'as traversé plein de choses. Et ok, très bien. Moi par exemple, je trouve pas mes cicatrices particulièrement belles. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas confiance en moi? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis pas fière de moi? Non. Et je trouve que ce truc de la beauté, et je pense que c'est Mia Mingus qui est une activiste coréenne qui en parle très bien, c'est qu'on met tellement la beauté sur un piédestal qu'on n'arrive plus du tout, et qu'on a tellement peur des choses pas forcément belles, voire moches, et encore tout ça est extrêmement subjectif, qu'il faut que tout soit tout le temps beau, alors que nos corps sont pas forcément beaux, et c'est pas grave, c'est ok, et ça veut pas pour en dire qu'ils sont pas respectables, qu'ils ont pas leur place, et j'ai un peu peur que ce culte de la beauté, en fait, nous soit une nouvelle espèce d'injonction, où en fait on veut même plus voir ce qui n'est pas forcément beau, et encore une fois, le beau est subjectif en fait. Et moi je sais très bien que je ne trouverai jamais mes cicatrices belles, mais ça veut pas dire que je me trouve pas belle en tant que personne, ou quand je regarde dans le miroir. Et je pense que ce côté où on dit « faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes, faut que tu t'aimes, faut que tu trouves belle, faut que tu trouves belle, faut que tu trouves belle », ça peut aussi donner l'espace à... Il n'y a plus de nuances en fait, alors qu'on est des personnes nuancées, on est des personnes complexes, on ne s'aime pas tout le temps, et on a le droit de ne pas forcément s'aimer un moment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas tout court en fait. Enfin, c'est des phases, il y a tellement de choses qui arrivent voilà, au jour le jour, au quotidien, qu'on n'a pas besoin d'être toujours 100% top et de toujours s'aimer de manière inconditionnelle. On a aussi des moments où on peut ne pas être au top, et je pense que tout ça... doit être validé et doit être compris en fait. Il faut qu'on arrête dans ces extrêmes et qu'on mette en avant la nuance plus de l'être humain qui n'est pas toujours au top, mais qui n'est pas toujours en bas non plus, et que la vie c'est vraiment des vagues quoi, et que je pense qu'il y a ce côté nuance qu'il faut vraiment il doit vraiment rester au centre des discussions en fait, et de la complexité juste de nos corps, et de notre perception de nos propres corps en fait, et qu'il faut vraiment qu'on essaye d'arrêter de se forcer de vouloir absolument rentrer dans ces cases de je m'aime tout le temps, j'aime tous ces corps, même ce truc que j'aime pas trop, je dois l'aimer. Non, c'est bon, c'est ok, tout va bien. Déjà, le simple fait de s'accepter, c'est un travail. Et si en plus, on va aller encore plus haut et de s'aimer de manière inconditionnelle tout le temps, sur chaque partie de son corps, stop, on peut s'accepter, se respecter et ne pas forcément se sentir mal parce qu'il y a une cicatrice qui ne me plaît pas, quoi.
Comment est-ce que tu t'entends avec ton corps et avec ton genre aujourd'hui ?
Alors,
vaste question.
Vaste question. Donc une vaste réponse va arriver. Donc j'ai une période très compliquée, comme je disais, avec cette année et demie qui était très très difficile pour moi, où j'ai eu beaucoup d'opérations. Et de fait aussi, mon corps qui s'est retrouvé extrêmement fatigué. Maintenant, comme d'ailleurs je le disais donc, il y a quelques minutes, voilà, moi j'ai un corps qui a beaucoup de cicatrices, qui est clairement marqué par les différentes choses qui me sont arrivées durant ces dernières années. Ça a été clairement un travail de m'accepter, de me dire que ce nouveau corps était mon corps et qu'il me servait bien, quoi, qu'il était bien pour moi et qu'il allait m'accompagner et que ça allait le faire. Donc moi je suis plutôt, comment dire, je me suis jamais détestée en me voyant. J'ai déjà eu des périodes où je me sentais pas forcément bien dans mon corps parce que voilà, j'avais des photos, etc. et que je me sentais pas forcément voilà, très, très jolie, etc. Mais je me suis jamais haïe en fait. J'ai jamais haï mon corps, je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Donc je me sens bien dedans. Clairement, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et normalement, si tout va bien, je n'aurai plus trop d'opérations dans ces prochaines années. Donc là, je veux le laisser se reposer un peu, et je pense qu'il en a besoin, et je pense que j'en ai besoin aussi. Et je pense qu'il y a le côté aussi mental où je suis fière de ce que je suis devenue, qui joue aussi un rôle très important. Et avec mon genre, je me sens aussi en tant que femme, et je me sens très à l'aise avec ça. Et je me sens bien. C'est venu en une bonne période où après toute la période compliquée, c'était un peu moins enthousiaste. Là, je suis dans une bonne période et c'est cool. Et c'est bien de se sentir bien.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à te réconcilier avec ton corps ?
Oui, donc alors je sais pas si le terme réconcilier, je sens peut-être un petit peu fort, mais c'est à peu près l'idée, on va dire ça comme ça. C'est de me réapproprier, voilà, et de me reconstruire avec ce nouveau corps qui s'est retrouvé un peu chamboulé et modifié. Donc ouais, j'ai fait pas mal de tatouages. Moi je suis le genre de personne où il me faut beaucoup de temps. En fait, j'ai une idée et je me dis, est-ce que je vais m'en lasser? Donc j'attends genre quelques années limite pour le faire. Et le tatouage est un peu une addiction, ça veut dire que quand on commence à en faire, on veut continuer. Donc là j'ai déjà une autre idée, j'ai créé une tatoueuse, donc j'attends sa réponse impatiemment. Mais oui, j'ai plusieurs tatouages et je pense qu'il y a un côté aussi donc de réappropriation du corps. Et peut-être que ça peut paraître assez étrange, mais le simple fait... C'est vrai que par exemple, moi je ressens plus forcément donc mes jambes. J'ai ce qu'on appelle la sensation superficielle, où genre juste quand on te touche, tu sens en fait qu'on te touche. Moi j'ai pas cette sensation là. J'ai des choses qui se passent mais qui sont très réduites par rapport à la sensation qu'une valide a. Et c'est vrai que d'être sous l'aiguille et de vraiment sentir, même que ce soit un peu douloureux, etc., continue à sentir des choses. Que vu cette sensation que je ne peux pas sentir dans mes jambes, je la sens d'autre part, même si c'est une sensation qui n'est pas forcément la plus agréable. C'est ça que, ouais. Donc là, j'ai 5 tatouages, je vais en faire un 6e. Et le dernier que j'ai fait, C'est en fait, c'est une tatoueuse coréenne que j'adorais, que je suis sur Instagram, et qui faisait des paysages minimalistes que j'adorais. En fait, quand il y en avait un qui était, c'était genre une plage, et en fait, ça m'a vachement rappelé la plage de, à côté du village de chez mes parents au Portugal. Donc je me suis dit, bon bah, si un jour je vais en Corée, je ferai tout par rapport à cette tatoueuse. Et en fait, elle est venue à Londres pendant une semaine ou deux, et j'ai fait genre, ok, c'est maintenant, donc j'ai pris l'opportunité, et en fait je lui ai envoyé une photo de la plage de mes parents, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire, dans ton style, hein, mais que tu puisses la recréer, et donc c'était ça, et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce tatouage. Ouais.
Est-ce que tu te sens représentée?
Quand voilà, j'ai commencé à me déconstruire et tout, j'ai aussi beaucoup lu sur la représentation des personnes handicapées, et clairement, enfin, faut pas être... Faut pas faire beaucoup de recherches pour voir qu'il n'y a rien ou très peu, et que aussi le peu qu'il y a, c'est un discours qui est le discours dominant en fait, et validiste et paternaliste. Donc ce qui en soi est une représentation, mais pas une bonne représentation. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ait une représentation qui soit diversifiée, qui raconte vraiment les personnes handicapées, mais comme elles sont vraiment. Pas cette perception que les personnes valides ont des personnes handicapées. Et je pense que en France notamment, en fait, les films qui parlent de personnes handicapées sont tournés autour d'un handicap. Donc en fait, on voit vraiment les personnes handicapées qui jouent des rôles de personnes handicapées. On voit pas les personnes handicapées qui jouent le rôle d'une mère, d'une fille, d'une pote. D'une petite amie, et en fait c'est ça qui manque drastiquement, et les personnes qu'on voit handicapées sont aussi toujours les mêmes, c'est très blanc, c'est très masculin, alors que le handicap touche toutes les démographies, des personnes LGBT peuvent être LGBT et handicapées, qu'il y a des personnes racisées, et en fait on a énormément besoin de tout ça en fait, de montrer à quel point les personnes handicapées sont différentes, qu'elles mènent des vies différentes, qu'elles sont de genres différents, des sexualités différentes. Enfin, tout ça, c'est extrêmement important d'un côté pour que déjà on montre exactement comment la société est, et les derniers chiffres sur la représentation, c'est genre 0,6 voire 7%. Et je pense que quand c'est fort, c'est parce qu'elle est paralympique. Donc, voilà. Donc en gros, si on veut être très caricatural, mais même pas si caricatural que ça, la représentation à la télé, c'est Paralympique et Téléthon. Et personnes handicapées sont un peu plus que des athlètes et des gens qui pleurent sur leurs conditions. Donc il faut absolument, et heureusement du côté transatlantique aux États-Unis, on voit des films qui sont des séries qui sont en train de mettre en avant et de caster des personnes handicapées qui sont jouées par des acteurs handicapés. Et c'est exactement ce dont on a besoin, tout simplement. Donc la représentation, c'est quelque chose qui importe, et c'est quelque chose qui doit vraiment miroiter la société. Et aujourd'hui, que ce soit pour les personnes handicapées ou pour d'autres communautés marginalisées, c'est clairement quelque chose qui manque. Et surtout, il faut qu'on soit bien représenté, et que ce soit les personnes concernées qui se racontent, parce que c'est elles qui savent le mieux se raconter et le mieux aussi jouer des personnes handicapées dans des contenus.
Est-ce que tu le vis aussi comme une forme de pression sur toi-même, dans ta manière de te raconter, de te présenter sur les réseaux sociaux, notamment? Est-ce que tu te dis, peut-être que je peux être un modèle? Est-ce que j'ai envie d'être un modèle, dans ta manière de te représenter?
Bah, c'est toutes, je pense que c'est les questions qui se posent tout le temps. C'est ce côté où, de toute façon, dès que tu portes un message, les gens aussi attendent quelque chose de toi. Et oui, je mets la pression carrément. Parfois, c'est un peu d'ailleurs facteur d'anxiété. mais je pense que c'est aussi quelque chose en fait qui vient avec l'activisme, le militantisme, où bah t'as envie en fait aussi de comment dire, de représenter ce que toi tu veux ce que tu veux voir en fait représenté en fait. C'est juste un élément qui va permettre à ce discours, à ce combat qu'on est en train de mener, de prendre place. Donc évidemment, je mets énormément de pression. Moi, clairement, je ne suis pas porte-parole des personnes handicapées. Je suis une personne handicapée parmi tant d'autres avec un handicap particulier et donc une expérience particulière, mais qui peut être partagée par des personnes qui ont le même handicap que moi ou pas. Évidemment, je parle de par mon expérience et d'autres personnes ont un récit et complètement légitime également. Et toutes nos voix sont légitimes et il faut évidemment prendre en compte que nos histoires sont différentes, nos récits sont différents et que certaines personnes handicapées vivent d'autant plus d'exclusion et d'argilisation parce qu'elles sont à l'intersection de plusieurs oppressions. Et c'est aussi quelque chose que nous on doit écouter parce que on voit beaucoup de personnes blanches. Et moi j'ai une amie activiste qui s'appelle Imani Barbarin qui m'inspire beaucoup et que j'aime. Et elle raconte son récit et bien sûr elle met à même titre le handicap, le validisme et sa couleur de peau et le racisme. Et beaucoup de personnes blanches handicapées ne viennent la voir en mode « Bon, bah, tu peux arrêter de parler de race. » Et elle est en mode « Bah non, non. » Et c'est quelque chose que nous, on doit écouter aussi en tant que personnes blanches handicapées. Et clairement, si on se bat pour les personnes handicapées, il faut se battre pour toutes les personnes handicapées.
Est-ce que, au-delà des réseaux sociaux, tu vis aussi une forme de pression à te montrer exemplaire ? Non, au travail ou dans les lieux de rencontre qui seraient accessibles, les rares lieux de rencontre accessibles, ou même dans l'espace public en général.
Je pense que oui en fait. Mais après, est-ce que c'est quelque chose qui vient parce que j'essaie de vivre et que donc ça vient naturellement en fait. Mais je pense que de toute façon, quand le simple fait de voir des personnes handicapées vivre leur vie, être dans des espaces où normalement ils ne se sont pas et juste être là en train de kiffer leur vie, je pense que juste ça déjà c'est comment dire, ça peut juste donner une perception différente en fait.
Une question que j'aime bien poser aussi, qu'est-ce qui te donne de la force aujourd'hui?
Qu'est-ce qui me donne de la force? Mon cercle proche, mes amis, ma famille me donnent extrêmement de force. J'ai fini un projet perso d'écriture dont lequel je suis très fière. Donc ça me donne de la force et je suis archi sereine et je suis très très contente de ce que j'ai fait. Juste le fait que j'ai l'impression que les choses commencent à changer et ça me stimule énormément. Et je vois d'autres féministes qui se battent et qui n'arrêtent pas. Malgré le fait que malheureusement aujourd'hui elles font beaucoup plus qu'elles ne devraient et qu'il y a beaucoup de burn-out et de personnes qui arrêtent et qui se prennent des pauses, ce que je comprends complètement, elles continuent de me donner de la force et tous ces espaces-là, toutes ces personnes-là me motivent énormément et je les remercie par ailleurs.
Et enfin, le mot de la fin, est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire?
Majoritaire, bah déjà moi aussi je prends quand j'étais enfant et tout, oui. Et je pense que en tant que personne blanche, je me sens majoritaire.
Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, un truc qu'on n'aurait pas évoqué?
Non. Mais je m'en
casse dédié, une dédicace.
Une casse dédié. Juste à Imani Barbarin et parce que je l'ai déjà ceci et je l'adore quoi.
Très bien, bah merci beaucoup en tout cas Marina.
Et merci à vous, c'était un très beau challenge. Je suis ravie d'avoir participé, merci encore pour m'avoir invité.
On est honorés d'avoir pu recueillir ta parole, merci beaucoup.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.